Tout d'abord, j'aurais voulu revenir justement sur la question des chiffres évoqués par les deux orateurs. Je voudrais apporter une petite précision, c'est-à-dire que les chiffres cités par Rémi Casals concernent uniquement les déserteurs à l'ennemi et non les déserteurs en général. Bon, dans le code militaire belge, comme dans d'autres codes dans d'autres pays européens, était considéré comme déserteur tout soldat qui était absent pendant 3 jours de son poste. C'est donc une catégorie extrêmement hétérogène où il y a les simples retardataires, c'est-à-dire les gens qui partent en congé et qui reviennent avec quelques jours de retard. Il y a les déserteurs vers l'arrière, si on peut dire ça comme ça dans le cas belge, c'est-à-dire qui vont en France ou en Angleterre pendant leur congé et décident pour une raison ou pour une autre de ne pas revenir. Et il y a les transfuges, ceux qui se rendent aux Allemands, qui franchissent le No Man's Land pour directement se rendre à l'ennemi. Donc, dans ma communication, j'étudiais en particulier les déserteurs à l'ennemi, c'est-à-dire cette forme extrême de désobéissance qui est de se rendre aux Allemands. Donc, quand je parlais de profils sociologiques extrêmement typés, comme je l'avais souligné, c'est-à-dire 90% de soldats flamands, peu instruits, cantonnés dans l'infanterie et simples soldats, ce sont bien des déserteurs à l'ennemi. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les déserteurs en général, en tant qu'entité, en tant que catégorie statistique mise en place par l'armée, enfin en tant que nomenclature militaire, les profils sont tout à fait différents. Donc ça, je voulais quand même revenir là-dessus, parce que moi, ce qui m'intéressait dans cette communication, c'était d'une part d'étudier les profils sociologiques, mais aussi d'étudier la question des minorités nationales en guerre. Et là, je pense qu'on peut tracer un parallèle avec l'armée allemande. Où on sait que ceux qui se rendent à l'ennemi au sein de l'armée allemande, ce sont avant tout les Alsaciens-Lorrains et les Polonais. Donc, en gros, je pense qu'on peut voir la guerre comme un formidable moment de mise sous pression des groupes dominés, qu'ils soient dominés culturellement, religieusement, linguistiquement ou ethniquement. Et c'est ça que je voulais mettre en place. Ça rejoint la question de la légitimité que soulevait Antoine Pro. Pardon?
Est-ce que c'est vrai dans l'équipe 18, totalement?
D'après l'étude de Zeman sur les régions rurales, il semble que ce soit lui met ce facteur en avant. Moi, je n'ai pas étudié ce cas-là spécifiquement, mais il semble, bon, on sait très peu de choses sur les minorités nationales en guerre en 14-18, et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Mais pour les cas qu'on connaît, ce sont les groupes dominés qui fournissent qui est le plus grand nombre de transfuges. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a des facteurs conjoncturels, comme vous l'avez bien expliqué, la défaite qui semble proche, mais il y a aussi des facteurs structurels, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont d'une part moins intégrés à la nation avant la guerre même, mais qui, une fois sur le front aussi, sont discriminés, comme vous l'avez bien souligné. Et donc, pour conclure, je voudrais rappeler cette évidence, c'est-à-dire que les combattants ne forment jamais une entité. Quand on parle du monde combattant, je pense qu'on oublie un peu trop l'aspect à la fois des classes sociales et des ancrages identitaires. Voilà, c'est ce que je. Voilà.